Patrick Campagne, bonjour. Pour ouvrir cette troisième page dans les Pyrénées-Atlantiques, je vous invite à Lagos. Alors, quand j'ai reçu le message de notre correspondant, mon moteur de recherche m'a conduit tout droit au Nigeria au lieu de m'emmener vers ce village de moins de 500 âmes qui organise depuis 2007 un festival de musiques improvisées aux saveurs de jazz, de blues, latino, musique à Lagos. C'est le nom du festival qui aura lieu du 28 au 30 juin et qui est un promoteur tout au long de l'année à musique à Lagos des jeunes talents que l'on retrouve sur scène pour un tremplin régional. Installé sur les berges du Lagouin, un chapiteau vous accueillera gratuitement pour profiter du programme des trois jours. L'esprit est champêtre, convivial et musicalement très réussi. Mais il appelle aux dons pour assumer ses passions, tous sont bénévoles, hein, et les faire partager via la plateforme Litchi qui figure sur la page Facebook de l'association qui s'affiche à notre propre page Facebook et aussi à notre page Carnet de campagne sur franceinter.fr. Un bel esprit ressort également de l'Institut supérieur aquitain d'Anglette. Ici, chaque année, une association conduit les étudiants ingénieurs en BTP sur un projet international solidaire. Présentation avec Adrien Chassagne. C'est un tour de force que de regrouper 8 cinémas de proximité et de former les bénévoles à l'exercice de gestion et de programmation des salles du réseau. Pour se faire un métier aîné, médiateur ciné comme Marion Combelas, seconde invitée.
France Inter, Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Adrien, oui. Chassagne, bonjour.
Bonjour.
Adrien, vous êtes président d'Humanisa, Humanisa 19 pour la 19e promotion des élèves ingénieurs de l'ISA. Alors l'ISA, c'est l'Institut supérieur aquitain de BTP qui est à Anglette. Et pour la quatrième année, vous proposez à des étudiants de travailler un projet solidaire dans un pays étranger.
Oui, voilà, tout à fait. Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous organisons, nous mettons en place pendant plus d'un an et demi ce projet solidaire international de construction d'un bâtiment, d'une école, d'un centre de soins dans le but d'aider une population locale.
Quel est l'impact de cette démarche des étudiants sur leur future carrière? Est-ce que ça modifie les vues, les perspectives, les regards et le travail?
Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que ça, c'est certain, parce que c'est le projet, en fait, c'est l'aboutissement de 5 ans d'études, où dès la première année, nous avons réalisé des stages ouvriers pour terminer ingénieur. Donc, dès le début, nous essayons de connaître, de comprendre le travail sur le terrain et ce projet de 6 semaines à l'étranger. Nous sommes les maçons, les charpentiers, les peintres. Il nous fait bien comprendre à quel point l'esprit d'équipe et de solidarité dans le monde du bâtiment est important.
Oui. Et la dernière édition, vous avez travaillé sur une surface que vous n'aviez jamais imaginé pouvoir concevoir. Qui s'est passé dans quel contexte et à quel endroit?
Alors, en mars et avril 2019, nous sommes allés au Bénin, dans le petit village de Betagbo, à une petite heure en voiture de Cotonou, pour construire 550 m² de surface couverte, pour offrir 4 salles de classe pouvant contenir chacune plus de 60 élèves.
Quand je vois les interventions que vous avez faites avec l'association Humanisa, vous privilégiez d'abord l'Afrique ou l'Asie?
En fait, on privilégie le projet qui correspond le mieux à nos attentes et qui respecte notamment des critères très importants, le premier étant la sécurité de plus de 50 élèves français à l'étranger. Donc voilà, on n'était pas retourné en Afrique depuis 2012, mais le Bénin a été pour nous l'occasion d'y repartir, sachant que le pays était, et j'espère, va l'être encore très stable politiquement.
Ouais, ce qui n'est pas garanti, parce qu'on a vu ce qui se passait non loin du Burkina Faso ces dernières semaines, ce qui contraint parfois les démarches. Comment vous organisez logistiquement ce déplacement de 50 ou 60 étudiants de l'Institut BTP vers des pays lointains? Le séjour, le démarchage, les moyens financiers sont importants.
Alors en fait, ce qui est fait, c'est que nous sommes répartis en commissions, donc les 56 étudiants. Alors il y a 5 commissions, la commission financement qui va s'occuper de rassembler tout le budget, la commission logistique qui, elle, va trouver les billets d'avion au prix le plus abordable, négocier pour tout le matériel qu'on va devoir amener, l'hébergement sur place, la nourriture, l'eau potable également qui est très importante. Il y a également une commission qui s'occupe de la conception du bâtiment, donc qui va tout dimensionner, organiser les équipes, les temps de travail, les plannings, parce que nous n'avons que 6 semaines pour bâtir. et d'autres commissions également comme la communication qui fait un gros travail sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse avoir de l'aide, des soutiens des particuliers, des entreprises. Et enfin, une convention événementielle qui s'est occupée d'organiser plein d'événements pour récolter des fonds.
J'imagine, les matériaux utilisés dans la construction de ces programmes internationaux et solidaires vont, je suppose, dans le sens de l'éco-construction. C'est une direction qui est prise par l'Institut aujourd'hui?
Oui, alors c'est une volonté de notre part de construire très durablement. En fait, on n'a pas envie que notre construction, à la prochaine tempête, au prochain coup de vent, disparaisse. C'est hors de question. On a tellement travaillé pour que nous avons construit avec les normes françaises, à l'Eurocode, avec des sécurités essentielles pour que notre bâtiment tienne facile 40-50 ans, on espère.
L'exemple au Bénin dont vous parliez, vous avez construit 4 salles de classe avec l'aide de maçons béninois, mais il y avait toute l'équipe des étudiants avec un projet mené par aussi l'ONG Terre d'Espoir. C'est absolument génial ce que vous réalisez. L'année prochaine, vous allez où, vous le savez?
Alors l'année prochaine, c'est Humanisa 20 qui prend le relais.
Ouais.
Et cherche de rentrer en contact avec une association française ou du pays dans lequel le besoin est. Et j'espère qu'ils auront trouvé leur destination courant août ou septembre pour annoncer à tout le monde où Humanisa 20 ira construire son projet solidaire.
Ah, bah, on va peut-être trouver une ONG ou une association internationale à l'écoute qui sera intéressée par la démarche, parce que c'est vraiment chouette ce que vous faites. Le site, c'est humanisa.net. Il y a Humanisa 19 pour la promotion actuelle avec sa page Facebook. Avec notre président Adrien Chassagne, bravo pour cette réalisation et cette belle aventure humaine. Merci Adrien.
Merci beaucoup. Merci à vous, merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Sylvain nous a fait une sorte de lâcher de cafetage. Merci Sylvain. Et parmi ceux-ci, mon attention était attirée par une agence d'architectes et de paysagistes atypiques installée à la Bastide Villefranche. Parmi les protagonistes, Anna, architecte suédoise, lauréate du prestigieux prix Kasper Sahlin en 2018, nom d'un architecte de Stockholm qui honore chaque année un projet de qualité architecturale élevée. Anna, parfaite francophile, fait partie du collectif Encore, qui apporte une vision originale, humaine de la restauration et de la construction des espaces ouverts, des lieux de vie portés vers le vivre ensemble. À l'image de la ferme d'Ouré, vouée à la démolition, cette ferme à la frontière du Béarn et du Pays Basque est un manifeste de la vie rurale d'avenir. Rendre la vie plus belle que l'architecture est le mot d'ordre du collectif qui expose sur son site ses motivations qui vont jusqu'à proposer une non-intervention sur des espaces qui ne nécessite pas d'autres aménagements selon ses experts du bien habité. Plus généralement, le collectif prône un respect des écosystèmes vivants, humains, naturels, et j'aime bien dans la charte édictée par le groupe le dernier point, aborder certaines questions difficiles et actuelles avec humour et une certaine forme de poésie. Leur création mérite vraiment le détour, je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site collectifencore.com. Marion Combelas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes salarié, d'ailleurs la seule salariée, pour l'instant, de l'association Objectif 64. Alors là, vraiment, les bras m'en tombent. Vous réunissez 8 salles de cinéma de la région contre l'implantation des multiplex, il y en a de plus en plus. Et puis, surtout pour essayer d'irriguer dans le pays un maximum de bons films et de bonnes séances avec des rencontres, et tout cela sur un travail de bénévole.
Oui, absolument. L'association donc Objectif Ciné 64 est une association en fait départementale de mise en réseau de salles de cinéma dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Nous regroupons effectivement ces 8 établissements dans tout le département et la sauvegarde des salles de proximité est notre enjeu principal. Et pour y arriver, on déploie plusieurs missions, plusieurs objectifs qui concernent l'éducation à l'image. Donc effectivement, on se déplace en salle pour animer des séances avec du jeune public notamment, mais aussi du public plus âgé et puis tout type de films. On met en place des sessions de formation pour nos bénévoles et nos salariés, bénévoles qui effectivement sont une énorme force de travail pour nous, puisque sans eux, les cinémas ne pourraient pas fonctionner, en tout cas pas de la même manière.
Donc on peut apprendre à gérer une salle de cinéma avec vous?
on peut apprendre en tout cas à monter en compétences, à proposer ses services sur vraiment, on va dire, des choses très simples comme du contrôle à l'entrée de la salle ou de la caisse ou carrément la projection. Donc on peut arriver à se former sur les projecteurs numériques. Donc c'est vraiment arriver à développer ces compétences-là pour nos bénévoles, nos salariés aussi, puisque nous avons quand même des cinémas qui sont gérés également par des salariés en poste. Mmh. Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre aux bénévoles d'accéder à ces formations-là, qui sont aussi une manière de pouvoir développer les publics dans nos cinémas qui en perdent de plus en plus.
Errol, vous parliez du numérique, Marion. C'est bien, c'est efficace, c'est nécessaire, mais la durée des appareils numériques n'est pas garantie.
Oui, comme tout appareil numérique aujourd'hui, les téléphones ou les ordinateurs, les projecteurs numériques, donc qui sont les nouvelles manières de projeter des films dans les salles depuis 2010, bah, sont aussi voués à être en obsolescence programmée. Donc on a le risque en fait de voir une pièce cassée et de devoir remplacer une partie du projecteur ou le projecteur en entier. Et ce risque-là, c'est une énorme épée de Damoclès au-dessus des têtes des salles de cinéma, puisque parfois les pièces peuvent aller jusqu'à 5 000, 10 000 euros, et ça peut être une raison de fermeture en fait pour nos salles qui sont très fragiles économiquement.
Alors la région Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à projet qui a permis d'embaucher 20 médiateurs ciné, ce qui est unique en France. Quel est le rôle d'un médiateur ciné ?
Alors effectivement, grâce à la région Nouvelle-Aquitaine et, je tiens à le dire, au Centre National du Cinéma, 20 médiateurs ont pu être embauchés sur toute la région. Alors c'est presque unique en France, effectivement, puisque la seule autre région, je crois, à être dotée de médiateurs, c'est Rhône-Alpes. Et l'idée générale, c'est vraiment de pouvoir permettre au cinéma de proximité, aux petites salles, de survivre, de trouver des moyens de développer nos publics, notamment le public adolescent qu'on a du mal à faire venir en salle, en tout cas sur d'autres films que les blockbusters. Et en fait, voilà, notre équipe de médiateurs est là pour pouvoir développer de nouveaux publics, aller trouver des solutions innovantes pour les faire venir dans nos salles et revaloriser nos cinémas, quoi.
Et les établissements qui adhèrent à Objectif Ciné 64 ne sont pas nécessairement labellisés à Art et Essai.
Ils le sont tous.
Ils le sont tous.
Ah oui. Ils le sont tous. Certains ont des programmations mixtes, c'est-à-dire qu'ils projettent à la fois des films d'auteurs un peu pointus et aussi des blockbusters américains, des films plus grand public en tout cas. Et deux d'entre eux sont exclusivement Art et Essai, ce sont les cinémas de Bayonne, La Talente, qui vient d'ouvrir trois salles tout récemment, et celui de Pau, Le Méliès, qui sont donc deux cinémas exclusivement Art et Essai.
Et les multiplexes continuent à se construire ?
Ils continuent, oui, ils investissent de plus en plus les villes moyennes, et on se dit qu'ils vont aussi grappiller sur les plus petites villes, et donc faire une concurrence directe à nos petites salles. Donc ouais, effectivement, ça c'est un énorme enjeu, et le fait d'être en réseau permet de pouvoir mettre en commun les bonnes idées, les énergies pour se défendre face à cet enjeu-là en particulier.
Vous allez trouver le lien avec Objectif Ciné 64 au ciné64.fr. Objectif Ciné 64, ça c'est l'intitulé complet pour la page Facebook, et vous pourrez suivre les actions de ce regroupement rare, et puis ce programme de médiation unique. C'est la première région à porter à cet auteur en Nouvelle-Aquitaine ce programme de médiation au ciné. Merci Marion.
Merci à vous.